On va commencer Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le Perek Nun Aleph, chapitre 51. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans chapitre 51? Chapitre 51, on a expliqué que, a priori, il y a une question. D'un côté, on nous dit que Mlo Kolaret Kvodo, que Akadosh Baruch Hu se trouve partout. D'un autre côté, on nous dit que la Shrina se trouve dans certains endroits plus que dans d'autres. Par exemple, on nous dit que dans le Kodesh HaKodashim, Akadosh Baruch Hu est plus présent que dans le reste du monde. Donc on a posé la question, on a dit a priori une contradiction. D'un côté, on nous dit Mlo Kol Haaretz Kvodo, que la terre est emplie du Kavod d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est plus présent dans certains endroits que d'autres. Donc il faut se décider. Est-ce que Dieu est plus présent dans certains endroits que d'autres? Oui ou non? Pourquoi et comment? Pour expliquer ça, on a expliqué qu'on a amené la Gemara qui a dit que ma nefesh me mal'a est à gouf, car Akadosh Baruch Hu mal'a est à olam. Que la même manière que l'âme remplit le corps, s'occupe du corps, émane dans le corps, de la même manière, Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Ça veut dire que si on va comprendre comment la Neshama va amener de l'énergie, va émaner sur le corps, on arrivera à comprendre beaucoup mieux comment Akadosh Baruch Hu envoie ses Shrina. Et c'est là qu'elle explique la chose suivante. On a pris un exemple du Nefesh. Donc du Nefesh, de l'âme de l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est l'énergie. C'est ce qui fait que j'arrive à bouger ma main, c'est ce qui fait que j'arrive à voir, c'est ce qui fait que j'arrive à entendre, c'est ce qui fait que j'arrive à bouger, que j'arrive à toucher. C'est la Neshama. Et on a dit la chose suivante. On a expliqué, on a dit que cette énergie, d'où elle vient? Cette énergie, elle vient de la Neshama. Mais dans cette énergie, il y a trois phases. Avant que cette énergie s'exprime dans ma main, il y a trois phases. Première phase, c'est lorsque cette énergie est encore au stade de Hatzmout, de l'essence. C'est-à-dire qu'elle est encore au stade de l'essence. On a expliqué que dans le stade de l'essence, quand la Neshama est au stade de l'essence, il n'y a pas de différence entre la tête, les pieds, le corps, il n'y a aucune différence. Tout le corps a exactement l'essence de la Neshama de la même manière. On a donné un exemple. On dit que lorsqu'une personne est Bessimcha, lorsqu'une personne est joyeuse, ce n'est pas sa tête qui est joyeuse, son cœur qui est joyeux, ses pieds qui sont joyeux, c'est tout son corps qui est joyeux. On ne peut pas définir qu'est-ce qui est joyeux, parce que ça c'est lié à Hatzmout, c'est lié à l'essence. Ça c'est la première phase. Première phase de la Neshama, c'est le fait que toute la Neshama, l'essence de la Neshama est présente dans tout le corps, exactement de la même manière. Deuxième phase de la Neshama, cette Neshama va venir dans le cerveau, le centre nerveux du corps. Et c'est là que du cerveau, ça va être distribué. Le cerveau, c'est lui qui va être capable de distribuer, qui va dire, il y a une énergie dédiée qui partira vers les yeux, une énergie dédiée qui partira vers la bouche, une énergie dédiée qui partira vers le cœur, etc. Une énergie dédiée. Et donc la troisième phase, c'est le fait que l'énergie dédiée va être donc distribuée. Donc je résume, on a trois phases. On a, première phase, c'est l'essence de la Neshama, qui est la même partout. En haut, comme en bas, partout exactement la même. Deuxième phase, c'est le cerveau, le centre nerveux, donc qui va être un terminal pour distribuer l'énergie de l'Neshama. Et troisième phase, c'est la distribution effective. Et donc avec ça, Admor HaZaken va expliquer, il va dire que c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la Shekhinah. Que il y aura l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui elle, est la même partout, en haut, en bas, partout. Dans les forces du mal, les forces du bien, les sens de la Kadosh Baruch Hu, elle est même partout. Et d'un autre côté, on a troisième niveau. Donc après, on a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement divin, comme le dévoilement de la Neshama, qui lui va passer par ce qu'on va définir comme un centre nerveux, comme le cerveau, suite à quoi il va être distribué à chaque endroit selon les caractéristiques de l'endroit. Donc, la Shrina, d'un côté, est Atzmout, ça veut dire que c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est indivisible et qui restera la même partout. D'un autre côté, il y a une autre partie de la Shrina qui va se dévoiler, d'accord, cette même Shrina va se dévoiler un peu plus un peu dans certains endroits que d'autres. Je vais donner un exemple pour expliquer la question de Moïse Akamis. Pour expliquer la question de Mourazaken sur la Shrina, raconter une histoire avec Rabbi Simcha Bounin de Pachisra. Rabbi Simcha Bounin de Pachisra, dans ses jeunes années, était commerçant. Quelques mois par année, il travaillait, de manière à pouvoir travailler le restant de l'année, de pouvoir étudier le restant de l'année. Et il avait pris pour habitude, toujours lorsqu'il revenait du marché, donc il allait au marché à Danzig, en Pologne, il avait l'habitude, quand il revenait du marché, de rendre visite à deux rabbanim, dont un des rabbanim était le José de Lublin, le voyant de Lublin. Et une fois, donc il rend visite au retour de Danzig au José de Lublin, il va pour lui dire bonjour, et il ne comprend pas pourquoi le José de Lublin l'ignore. Bon, il dit certainement c'est une coïncidence. Il attend le lendemain. Le lendemain, il revient. Il repasse devant le Rosé de Lublin. Il voit le Rosé de Lublin dit bonjour à tout le monde. Et lui, il ne dit pas bonjour. Là, il a compris que ce n'était pas une coïncidence. Donc, il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le Rosé ne veut pas me parler? Et il réfléchit. Et non seulement qu'il n'arrive pas à qu'on va trouver, mais au contraire, il s'est dit, au contraire, je trouve que cette année, à Leipzig, c'était particulièrement bien. Bah, au prochain, j'ai pu étudier la Torah plus que d'habitude, j'ai pu me consacrer à l'étude de la Torah, j'ai même pu parler à des gens qui étaient loin de la Torah, j'ai essayé de les rapprocher. Vraiment, j'étais irréprochable. Qu'est-ce qu'attend de moi le rabbi? Bon, il se met à réfléchir. Il dit, puisque j'arrive pas à trouver, donc certainement, c'est parce que j'ai eu bitul Torah. Comme ce que dit la Gemara, lorsqu'une personne n'arrive pas à trouver la cause de ses épreuves, certainement, c'est à cause de bitul Torah, à cause qu'il n'a pas assez étudié la Torah. Donc, il s'est mis à étudier la Torah. Il s'est mis à étudier la Torah jour et nuit. Il s'est dit certainement qu'à Danzig, j'ai pas assez étudié la Torah. Et c'est pour ça que le rabbi m'en veut. Donc, il s'est mis à étudier la Torah jour et nuit pendant plusieurs jours. Et c'est au bout de plusieurs jours qu'il a eu un flash comme ça qui est venu à son esprit. Il s'est dit, peut-être qu'à Danzig, j'étais un peu trop orgueilleux. Peut-être que tellement je me sentais bien, que je me sentais que j'ai eu un petit peu d'orgueil qui est venu. Et donc il a réfléchi, il s'est travaillé sur ça. Et là, lorsqu'il est venu par la suite, là, le projet de Lublin l'a accueilli. Donc il dit, c'est possible que j'ai eu un peu d'orgueil. Donc il se met à réfléchir, et il fait des choses. Ensuite, quelques heures plus tard, il va voir le rabbi, donc le José de Lublin, et il va voir le José de Lublin, et il passe à côté du José de Lublin, et le José de Lublin lui fait un grand sourire. Il fait un grand sourire. Alors il dit, bon, presque il a envie de poser la question, il avait lui dit, Rabbi, pourquoi vous ne l'avez pas dit directement? Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il lui dit, toi, quand tu étais dans là-bas à Danzig, tu voyais que la chrinette autour de toi, tu croyais que tu étais en train de faire mon émerveillement. Il dit, je vais t'expliquer. Danzig, c'est un endroit où il y a beaucoup d'impuretés. Et dans les endroits où il y a beaucoup d'impuretés, dans les endroits où ils sont tamés comme ça, hein, où il y a tellement de touma qui se passe, la shrina, elle cherche sur quoi s'agripper. Et toi, tu es venu avec le peu que tu as fait, elle s'est dit, bon, je vais m'agripper à toi. Toi, tu as vu que la shrina s'agrippait à toi, tu as vu que tu te sentais bien, tu te sentais bekdusha, tu as dit, waouh, je dois assurer. Il dit, mais tu aurais fait la même chose chez toi en Pologne, t'aurais rien eu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est une histoire avec laquelle on voit ce qu'on vient de dire ici, hein, que la shrina, c'est relatif. Bien que, et c'est pour ça comment des fois, hein, lorsqu'on est dans des endroits où il y a plein de touma, et on sent que on a beaucoup de toucha, on croit qu'on est en train de, on est devenu des grands tzadikim. Pas du tout, c'est parce qu'on est dans un endroit où il y a tellement de touma que la shrina elle cherche à s'agripper où elle peut, alors elle nous a trouvés.
Là où il n'y a pas d'homme, forcément d'être un
homme. C'est ça. D'accord. Alors, pourquoi je dis ça? Avec ça, on va expliquer, avec ça, l'Admorazaken va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire comment d'un côté on nous dit que Akadosh Baruch Hu est omniprésent et partout il est de la même manière? Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Akadosh Baruch Hu va être plus présent dans certains endroits que d'autres. Il va être plus présent chez cette personne-là, Dainty, que dans le reste de la place du marché. Donc, comment d'un côté tu me dis qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire Dieu est partout le même, et d'un autre côté tu me dis que si, il y a une différence entre les endroits. Et la grande nouveauté du Admor HaZaken, C'est là qu'on va comprendre ce que j'ai expliqué par rapport à la Neshama. Je vais expliquer qu'il faut faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre l'essence de la Neshama et le dévoilement de la Neshama. Et on aura des exemples en médecine, si tu veux, dans ta chaîne, dans le cours. D'accord ? Pour expliquer comment on peut comprendre ça clairement, matériellement. Il y a l'essence de la Neshama, il y a le dévoilement de la Neshama. Qu'est-ce que j'entends par le dévoilement de la Neshama ? Le dévoilement de la Neshama, ça veut dire le fait que grâce à ma Neshama, ma main, elle bouge. Grâce à ma Neshama, mes yeux voient. Ces mêmes yeux que quand je vais mourir, ils ne verront plus, maintenant ils voient. D'accord ? Grâce à ma Neshama, je peux marcher. Ça, c'est le dévoilement de la Neshama. Ça, c'est la Neshama qui s'exprime. Mais il y a l'essence de la Neshama. Ce qu'on va expliquer ici, c'est que l'essence de la Neshama est indivisible. Et quand on dit que Akadosh Baruch Hu est présent partout de la même manière, sans aucune différence entre une synagogue et une boîte de nuit, ça, c'est par rapport à l'essence de Dieu. Par rapport à l'essence de Dieu, Dieu est aussi autant présent dans le Gan Eden que dans le Gehinnom. Même chose. Ça, c'est l'essence. Mais par rapport au dévoilement, par rapport à la manière comment Dieu va se dévoiler, là, c'est pas la même chose. De la même manière que dans le corps, il n'y a pas autant d'énergie qui est déployée dans le cerveau que dans mon doigt. Le cerveau va déployer beaucoup plus d'énergie. Le cœur va déployer beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que plus l'élément, plus l'organe est vital, et plus de l'énergie va se développer, va se dévoiler. Mais attention, écoutez bien le terme. C'est pour ça que pourquoi j'emploie le terme dévoiler. J'emploie le terme dévoiler parce que ça ne veut pas dire que la Neshama est plus présente dans mon cerveau que dans mes pieds. Non. La Neshama, écoutez bien ce que je suis en train de dire, la Neshama est autant présente, aussi présente partout. Dans les pieds comme dans la tête, elle est aussi présente partout. Sauf que, dans certains endroits du corps, elle va plus se dévoiler, elle va plus se développer. Elle va s'agripper à certains endroits, elle va plus se dévoiler. Et c'est la même manière pour la Shrina. Ce qu'on va expliquer pour la Shrina. Pour la Shrina, l'essence de Dieu se trouve partout de la même manière. D'accord ? Mais elle ne va pas se développer partout de la même manière. Dans une synagogue, elle se développera plus que dans une boîte de nuit. Dans le Kodesh HaKodashim, elle se développera plus que dans notre synagogue. Ça, c'est le développement, le dévoilement. Et on va expliquer ça dans les mots, Bezrat Hashem. D'accord ?
La Shrina, c'est l'essence. Le dévoilement, c'est les deux.
La Shrina, c'est l'émanation divine. Dans l'émanation divine, tu as l'essence. D'accord ? Mais une fois que tu parles d'émanation, c'est plus de l'essence. C'est déjà une émanation. On va expliquer ça tout de suite. On va prendre un Veiné. Prenez la cinquième ligne de la page 143. Vous allez voir qu'on va tout comprendre. Veiné, Mauto, Vatsmuto, Shelensov, Baruchu, Shave, Beyuni, Watartonim. L'essence d'Akadosh Baruch Hu, rappelez-vous, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on expliquait par rapport à la Neshama. Que cette énergie qui va se développer dans ma main, qui va faire que ma main va bouger, qui va se développer dans ma main, elle est passée par trois phases. Première phase, c'est l'essence de la Neshama, qui est présente de la même manière dans tout le corps. Deuxième phase, le cerveau, le centre nerveux du corps, qui va distribuer l'énergie à tout le corps. Et c'est pour ça que le cerveau domine le corps. Troisième phase, l'énergie telle qu'elle a été distribuée effectivement à chacun des membres. On est d'accord ? Donc, l'essence de la Neshama, le centre nerveux qui est donc dans le cerveau, et ensuite, la distribution effective dans les membres. D'accord ? Non, distribution effective à chacun des membres. Chacun des membres va recevoir l'énergie dédiée. On va expliquer... C'est le dévoilement. On va expliquer, j'ai entendu globalement, on va expliquer que c'est de la même manière chez Akadosh Baruch Hu. On va commencer par la première phase. Ma'uto v'atzmuto shelensov Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Chavé Belionim ou Vatartoni. L'essence de Dieu est égale et de la même manière dans les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. On va expliquer ce que veut dire les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Kemashal aneshama anal, comme l'exemple qu'on a donné avec l'aneshama. Que l'essence de l'aneshama est autant présent dans la tête que
dans le reste du corps.
Que dans le reste du corps que dans les pieds. Donc moi, Shekatou Betikunim, comme c'est écrit dans les Tikunim, le Tikuné Zohar, Deus timu, dechol stimim. L'essence d'Akadosh Baruch Hu est cachée de tous ceux qui sont cachés. Ça veut dire quoi? Pirouche, ça veut dire. On va lire un peu quelques mots et après je vais expliquer. Dafilu balmin stimim deleela, ou satum venelam betocham, kemosheu satum venelam betartonim. De la même manière que nous, ici-bas, tu me poses la question, tu me dis, est-ce que tu comprends Dieu? Bien sûr que je ne comprends pas Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Bien sûr que je ne connais pas Dieu. Eh bien, tu iras au Gan Eden, tu iras chez les plus grands tzadikim du Gan Eden, tu leur poseras la même question, ils te répondront à la même réponse. Même question, même réponse. Pourquoi ?
Parce que l'essence d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, l'essence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas compréhensible par ceux qui sont en haut comme par ceux qui sont en bas. Et c'est ça, c'est un très bon exemple avec la Neshama. La Neshama, d'accord, c'est ce qui est de plus proche de notre corps. C'est ce qui nous fait vivre. Ce qui est de plus proche de nous, c'est encore plus proche que notre femme. Le plus proche de nous, c'est notre Neshama, celle qui nous fait vivre. Et pourtant, on va poser la question à quelqu'un, on va lui dire, est-ce que tu es capable de me définir ta Neshama ? Tu ne seras pas capable. Parce que s'il va commencer, comme on l'expliquait il y a deux semaines, si on va commencer à donner des termes, on va dire, oui, la Neshama, c'est les sentiments. La Neshama, c'est le psychique. La Neshama, c'est la réflexion. Mais c'est pas ça la Neshama, ça c'est des émanations de la Neshama. C'est déjà un dévoilement de la Neshama, un développement de la Neshama. Mais c'est pas ça la Neshama. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est en nous. On vit avec 24 heures sur 24, et pourtant tu me demandes qu'est-ce que c'est, je suis pas capable de te répondre. Personne n'est capable de te répondre, ni la tête, ni le cœur, ni les pieds. Personne n'est capable de te répondre. Pourquoi ? C'est la même manière chez Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essence, on peut jamais la comprendre. L'essence d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que la Neshama, personne ne comprend la Neshama. Ni la tête, ni les pieds, ni rien du tout, personne ne comprend la Neshama. C'est l'essence. De la même manière Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Stimu de Chol Stimin, comme c'est écrit donc, dans le Patach Eliyahu, qu'on lit il y en a qui lisent le matin, tous les matins, il y en a qui lisent le vendredi après-midi. Iou Stimu de Chol Stimin, Akadosh Baruch Hu est caché, même de ceux qui sont cachés. C'est-à-dire que nous, pour nous, il y a des niveaux qui nous paraissent inaccessibles. L'essence de Dieu est inaccessible, même de ceux, même des niveaux qui sont inaccessibles à nous. Inaccessible à 100%. Alors je voudrais définir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ici un monde qui est accessible mais un monde qui est inaccessible. On a parlé un petit peu de cette notion il y a quelques mois. D'accord. Mais donc je voudrais revenir, on va expliquer encore d'autres facettes. Expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un monde qui est les mondes d'en haut, les mondes d'en bas. Vous savez, souvent dans le Zohar, souvent dans le cours de Tania aussi, on entend les mondes d'en haut, les mondes d'en bas. Quand on entend les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, qu'est-ce qu'on a l'impression, c'est Daniel, c'est où les mondes d'en bas ? C'est ici, c'est les mondes d'en haut, c'est où ?
Les Shama.
C'est où les mondes d'en haut ? Où en haut ? Hein ? Où en haut ? On ne parle pas de l'essence, on dit l'essence de Dieu, elle est partout la même chose. Mais tu parles des mondes d'en haut, ils sont où les mondes d'en haut ? C'est où en haut ? D'accord ? C'est quoi en haut ? C'est où en haut ?
Pas de haut, il n'y a pas de...
D'accord ? Alors. Je vais te donner un exemple, d'accord, un exemple que j'ai lu dans un des commentateurs du Tania. Il y a même un exemple de la médecine. Dans la médecine, je vais vous donner la référence exacte parce que c'est un nom spécial. Il y a une maladie qui a été découverte il y a quelques dizaines d'années. Seconde.
Tu n'enregistres plus là.
Si, j'enregistre. Alors, écoutez bien. Le nom de la maladie, c'est dysfonctionnement du système d'intégration sensorielle. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand je vais vous donner un exemple pour vous expliquer ce que je veux dire. Imaginez-vous, on est dans une classe, le professeur s'apprête à donner un contrôle, distribuer un contrôle. Donc il demande le silence. Et les élèves vont se taire. Tout le monde va se taire. Bon. Tout le monde va se taire. Tu vous demandes au professeur, tu lui dis alors comment ça s'est passé le contrôle. Il va dire, parfait, pas un bruit. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi les dysfonctionnements donc, du système sensoriel ? C'est qu'il y a des enfants, ça c'est en général le pitre depuis qu'on est enfant, on a ça, il y a des enfants qui ont des sens qui sont beaucoup plus développés que les autres. Par exemple, il y a des enfants qui ont lui qui est beaucoup plus développé que les autres. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant le contrôle, je vais être là à me gratter les cheveux, d'accord ? Pour le professeur, ça ne s'appelle pas du bruit. Quand je prends mon crayon, je vais faire comme ça. Pour le professeur, c'est pas du bruit. Pour personne, c'est du bruit. Pour cet enfant-là, il a le sens qui est tellement développé que pour lui, c'est comme si qu'il y a un boucan énorme dans la classe, il n'arrive pas à se concentrer. Et il peut se mettre à se lever dans la classe, c'est déjà arrivé, et à crier, à dire « Arrêtez avec ce bruit !» Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui s'est gratté les cheveux. Pourtant, le prof dit « Mais il n'y a pas de bruit. » Et c'est une thèse qui a été développée il y a quelques années aux États-Unis, malheureusement c'est une maladie. Et on s'est rendu compte que ces enfants-là, avec le temps, ils vont apprendre à éteindre certains sens. C'est-à-dire, par exemple, avec le temps, tout d'un coup, ils peuvent s'arrêter d'entendre. Pourquoi ils s'arrêtent d'entendre ? Parce que tellement ils souffrent avec leur ouïe, tellement ça leur fait souffrir, qu'ils décident d'arrêter d'utiliser un des sens. C'est très intéressant. Cherchez sur Internet, dysfonctionnement du système sensoriel. En anglais, ça s'appelle SID. Cherchez, très intéressant. Et avec ça, ils ont expliqué beaucoup de choses. C'est un professeur qui a expliqué beaucoup de choses avec ça aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il voulait dans le livre que j'ai, donc un livre que j'ai lu sur ce chapitre du Tania, qu'est-ce qu'il voulait expliquer avec ça? Il voulait dire que qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit que il y a quelque chose qui se passe dans la même classe. D'accord? Il y a la même personne qui est en train de se gratter les cheveux. Et pourtant, pour 99% de la classe, ça ne dérange pas, ils n'ont rien entendu. Et pour une personne, il a l'impression qu'il y a un boucan énorme. Alors, il y a du boucan ou il n'y a pas du boucan? Et où il s'est passé le bruit? Il y a eu du bruit ou il n'y a pas eu du bruit? Le bruit était dans la classe ou le bruit n'était pas dans la classe? Et avec ça, il explique que, avec ça, on peut comprendre c'est quoi la différence entre quand on dit les mondes d'en haut, les mondes d'en bas. Pourquoi les mondes d'en haut, les mondes d'en bas? C'est pas qu'il y a un monde qui est en haut, un monde qui est en bas. C'est des couches de conscience. Ce qu'on entend par les mondes d'en bas, ça veut dire ce que 99% des enfants entendent. C'est-à-dire, pour eux, quand on fait ça, pour eux, c'est pas du bruit. Mais il y a des gens qui ont une neshama qui est plus fine, qui ont une sensibilité plus fine. Et ces gens-là, même quand tu grattes tes cheveux, ils t'entendent. Ces gens-là, c'est des grandes neshamot en général, des neshamot extraordinaires. Et on dit que malheureusement, ces neshamot-là, des fois, tellement elles sont dérangées par la shrina, que des fois, ils finissent par tout lâcher.
Par la shrina,
par la présence de Dieu. Tellement ils sont dérangés par la présence de Dieu, qu'ils finissent par tout, comme dans l'exemple que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on explique dans cette thèse? On dit que des fois, tellement ils sont dérangés par les bruits, et tout le monde les prend pour des fous, parce qu'il dit arrêtez de faire du bruit, mais il dit, mais il n'y a pas de bruit, t'es des fous, quoi. Tellement ils sont dérangés, qu'ils vont finir par éteindre quelque chose, éteindre une sensibilité. Alors il expliquait le rave comme ça, que c'est de la même manière, par rapport à ça, il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle extraordinaire, et tellement ça les dérange, c'est-à-dire que tout ce qu'ils regardent autour d'eux, ils ont du mal à supporter. Ils voient des choses qui se passent autour d'eux, alors des choses basiques, des choses du monde basique. Bon, les gens, ils font leur vie normale. Et tellement ils ont une sensibilité spirituelle raffinée, qu'ils n'arrivent pas à supporter. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que des fois, ils vont couper leur sensibilité spirituelle. Et ça peut devenir, Dieu préserve, des grands shame.
Ouais. Sans couper cette sensibilité, oui. Est-ce que ça peut être des traits caractéristiques de grandes tzadikim?
Bien sûr.
L'hypersensibilité.
C'est ça. C'est ça la différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'est pas que c'est des couches de perception.
Ils arrivent à lire en toi.
Oui.
Alors que...
D'accord. Olam en hébreu, on l'a déjà dit ça. Olam en hébreu, ça veut dire mort. Elem. Elem en hébreu, ça veut dire un voile. D'accord. Tu as les voiles d'en haut, les voiles d'en bas. Ça veut dire que nous, on a énormément de voiles. Plus on est tzadik et moins on a de voiles. C'est-à-dire qu'on va percevoir la même chose, d'accord, mais on va la percevoir différemment. On va voir des nuances, le tzadik va avoir des nuances que nous, on ne voit pas. Et je pense que cet exemple-là est un très bon exemple. L'exemple de la médecine est un très bon exemple, parce qu'on voit qu'il y a la même situation qui se passe, d'accord, exactement la même situation, et pour la majorité de la classe, c'est le silence complet, et pour une personne, il y a un boucan. Et du boucan, il y a un bruit énorme, un problème. Pourtant, c'est le même bruit.
On les prend pour des fous.
D'accord. On les prend pour des fous.
Non, non.
Quoi? Très bien. Non, mais dans l'exemple. D'accord. Dans l'exemple, ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut avoir la même réalité qui peut être perçue différemment. Pour une personne, elle peut être perçue comme un silence, et pour une personne, elle peut être perçue comme du bruit.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que les mondes d'en haut, c'est les mondes d'en bas.
Exactement. Et quand on dit les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, c'est des niveaux, d'accord? C'est des niveaux de conscience. Alors, écoutez bien ce que dit l'Admor HaZaken ici. Ce qu'Almorazaka nous dit ici, c'est que de la même manière qu'on a expliqué que l'essence de la Neshama est exactement la même en haut et en bas, l'essence de la Neshama est exactement la même dans les têtes, dans la tête, comme dans le cœur, comme dans les pieds, c'est la même partout. Et c'est pour ça que quand je suis joyeux, c'est tout mon corps qui est joyeux. De la même manière, l'essence de Dieu, d'accord, est exactement la même partout. Il n'y a pas de différence. Même cette différence qu'on a dit ici, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, entre les sensibilités raffinées, enfin entre ceux qui sont plus sensibles et ceux qui sont moins sensibles. Ça, c'est déjà par rapport au dévoilement. Ça, c'est quand on entend du bruit, déjà. Quand tu entends du bruit, alors il y en a un qui va entendre le bruit quand tu lui mets 1000 décibels, il y en a un, tu lui mets 10 décibels, il a déjà entendu. D'accord? Mais ça, c'est déjà quand il y a un dévoilement, il y a déjà des décibels. Mais l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est même pas des décibels. C'est de l'essence. Et ça, c'est la même pour tout le monde. L'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent dans tout le monde de la même manière, de quoi on parle? On parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, elle est présente de la même manière pour tout le monde. Venimsa. Dans les mots. Vous avez à Venimsa?
D'accord, parce que par rapport à ce que tu disais il y a 15 jours, qu'est-ce que ça veut dire que le grand Levina, qu'est-ce qu'il pensait lui alors? Il pensait que l'essence de Dieu était partout, mais pas au niveau du dévoilement, ou il pensait que c'était que le dévoilement qui n'était pas partout?
C'est autre chose. C'est autre chose, ça. Ça, c'est une marloquette sur la... C'est autre chose, ça. C'est une marloquette est-ce que, comment on appelle ça, lui, la question qui se pose, c'est est-ce que Akadosh Baruch Hu se dévoile partout?
C'est sur le dévoilement.
Ouais.
Mais sur l'essence, il est d'accord.
Bien sûr, c'est sûr. L'essence divine, c'est sûr. Alors, bon, on referme la parenthèse. L'essence, tout le monde est d'accord. C'est à tout moment où l'essence ne peut... Si déjà, ça veut dire dès qu'on va commencer à... Dès qu'on va commencer à décrire l'essence, c'est déjà un problème. Je vous donne un exemple. Vous savez, vous voulez encore un autre exemple de l'essence? C'est comme si je veux dire, en quoi un fils est le fils de son père? Est-ce que c'est le fils de son père parce qu'il a la tête de son père? Parce qu'il a les sentiments de son père? Parce qu'il a les pieds de son père? Parce qu'il a le cœur de son père? Parce qu'il a l'argent de son père?
Le caractère de son père.
D'accord? D'accord? Pas du tout. C'est rien de tout ça.
Le même dévoilement,
c'est,
au même
c'est un tout. Pourquoi le fils est le fils de son père? C'est l'essence. Et à tel point, vous voyez, le problème de l'essence, c'est que, voilà, pourtant, vous voyez, les enfants, on connaît ce que c'est les enfants. Et pourtant, je vous pose une simple question, je dis, essaye de m'expliquer comment ton fils, pas biologiquement, je te parle moralement, comment ton fils est ton fils? En quoi ton fils est ton fils? Je n'arrive pas à l'expliquer.
Il y a les mêmes défauts.
D'accord? D'accord? Ça c'est déjà un détail. Et s'il ne copie pas, c'est pas ton fils?
Non, c'est le fils de sa mère.
Et s'il ne te ressemble pas, c'est pas ton fils?
C'est le fils de sa mère.
Non, non, imagine-toi qu'il ne te ressemble pas.
Il est bien le fils de sa mère.
Non, non, ça, c'est en fait, on dit, c'est le fils de ta mère.
Dans l'imitation, il fait l'imitation.
Et s'il ne l'imite pas?
Alors, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Et s'il ne l'imite pas, c'est pas le fils de son père? Si. En quoi c'est le fils de son père? Oui, c'est comme l'Aneshama. L'Aneshama, on vit avec, c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous fait avancer, c'est elle qui nous... Et pourtant, je te demande, je m'arrête, je dis, mais explique-moi, c'est quoi ta Aneshama? Pas, qu'est-ce que ta Aneshama fait? Ça y est. Explique-moi, c'est quoi ta Neshama? Je ne serais pas capable de te répondre. Explique-moi, c'est quoi de l'électricité? Qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, c'est quoi de l'électricité? On va être capable de te dire, qu'est-ce que l'électricité peut produire? Mais qu'est-ce que c'est l'électricité? Il n'est pas capable de te répondre. Hmm? De l'énergie. C'est quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie? On va t'expliquer, comment je vais expliquer l'énergie? Je te regarde, j'ai tapé, tu vois, ça c'est l'énergie. Ça veut dire que je vais te montrer le développement de l'énergie. Je dis voilà, tu vois, j'ai développé l'énergie.
Une démonstration.
Démonstration. C'est pas une définition. Ça veut dire que je vais te le montrer par le résultat. Personne ne saura ce que c'est. Ça, c'est de l'essence. Atzmut ou Mahout. L'essence de la Neshama est incompréhensible. Et si on pourrait la comprendre, ça veut dire que ça n'a pas d'essence. L'essence de Dieu est incompréhensible par ceux qui sont en bas comme par ceux qui sont en haut. Par ceux qui ont une sensibilité... fine, comme par ceux qui ont comme moi en tout cas, qui ont une sensibilité grossière. Comme la Gemara elle raconte. La Gemara elle raconte dans le... La Gemara dans Brachot aussi. Elle raconte, elle dit que une fois, il y a un élève d'un cheder, une école, un jeune enfant, qui a appris avec son maître, d'accord, il a appris avec son maître le prophète Ézéchiel. Le livre Ézéchiel. Et là-bas, dans le livre Ézéchiel, à un certain endroit, on parle de Chashmal. Quoi Chashmal? C'est pas l'électricité, comme on dit en hébreu. C'est l'énergie, mais une énergie divine, quelque chose d'extraordinaire. Et là-bas, la Gemara, elle raconte, elle dit que cet enfant-là, il a tellement étudié le Chashmal, qu'à un moment, il y a l'électricité de Dieu qui est venue et qui l'a dévoré. Alors les Rachamim, ils sont rassemblés sur cette histoire, grande réunion. Ils ont décidé, dorénavant, on va interdire l'étude du livre d'Ézéchiel. Comme ça, ils ont décidé. Ils ont dit, attends, c'est dangereux, dis-moi, ça fait des morts, c'est dangereux. Et il y a un sage là-bas qui s'est levé, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Shmuel Bar Chachina, si je ne me trompe pas. Il s'est levé, il a dit, mais attendez, est-ce que cet enfant était particulièrement intelligent, tous les enfants sont intelligents. Lui, il était intelligent, mais la majorité des enfants ne sont pas comme lui. Et donc, finalement, ce que les Rachamim ont décidé, de ne pas interdire le livre d'Ézéchiel. Moi, aujourd'hui, je vais étudier le livre d'Ézéchiel. Je peux l'étudier 100 fois, 1000 fois, je peux étudier 1000 fois le livre de Chashmal. Et j'ai pas peur qu'il y ait l'électricité qui vienne me manger. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je sais que j'ai pas la sensibilité de cet enfant. Pourtant, c'est le même livre. Oui, encore une fois. C'est le même livre. Et pourtant, l'enfant, il va percevoir ça comme un monde supérieur. Et moi, non, l'électricité. Je vais essayer de m'imaginer l'électricité. Bon, je veux comprendre. Mais en tout cas, j'ai pas peur à aucun moment qu'il y ait l'électricité qui va venir me dévorer. Aucun moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? La sensibilité. La sensibilité de l'enfant était très fine. Comme elle est très fine, il a perçu des choses que nous, on ne voit pas. Et ça, avec ça, Edmond Razakan va expliquer que même si on voit clairement qu'il y a une différence et qu'il y a des gens qui ont une sensibilité plus fine que d'autres, on le voit dans la vie. De la même manière qu'on le voit moralement, on le voit aussi spirituellement. Il y a des gens qui ont une sensibilité plus fine que d'autres. Ce n'est pas lié au niveau de religion. Vous avez des religieux qui n'ont pas de sensibilité divine. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui ne sont peut-être pas religieux, mais c'est des gens que dès que tu commences à les toucher un peu, ils ont une sensibilité divine très 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 fine. On le voit. C'est des gens au quart de tour, ils pleurent. Ils comprennent tout de suite au quart de tour. Pourquoi? D'accord? C'est la sensibilité. Ça, c'est lié à la Neshama. Ce que je dis à Edmond Razaken, l'essence d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas mieux perçue par celui qui a une meilleure sensibilité divine. elle sera de la même manière chez tout le monde. De la même manière que l'essence de la Neshama est la même dans la tête et comme dans les pieds, de la même manière, l'essence de Dieu sera la même partout. Venimta, vous avez Venimta ? Kemo shematsu sham, kach nimtsa betartonim mamash. Donc là, je vais aller un peu vite parce que j'explique à l'oral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la même manière que Akadosh Baruch Hu est présent en haut, il est présent exactement de la même manière. Vous savez, le roi David dit, Tehilim, dans le psaume 139, il dit, Im esak shamaim, si je m'envolerai vers le ciel, sham ata, tu seras là-bas. Ve'atsi ha-sheol, et si je descends vers l'abîme, ineka, tu seras toujours le même. Alors là-bas, le Mefarshim, le commentaire, il pose la question, il dit, mais ça veut dire quoi, tu es toujours le même ? Mais ça ne peut pas être le même Dieu qui se trouve dans l'abîme et dans le ciel. D'accord ? Et pourtant, le roi David le dit. Le roi David le dit, si je monte au ciel, c'est-à-dire au plus haut niveau que je peux monter, tu es là. Et au plus bas niveau que je peux monter, il n'est qu'à, tu restes le même. Pourquoi tu restes le même ? Ça, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qui est indivisible, d'accord ? Et qui ne changera jamais. Fa'evdel, chebed, olamot, elyonim, betartonim, umitsad, amshachat, achayut. La différence qui existera entre les mondes d'en haut, ce qu'on appelle les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, comme ce que j'ai expliqué, c'est au niveau du dévoilement et du développement. Encore une fois, c'est ça ce que j'ai expliqué depuis le début du cours. S'il faut faire la différence entre l'essence de quelque chose et le développement de quelque chose. Imaginez-vous que je vous dis que dans cette boîte, tu as une énergie qui peut faire tourner le monde entier. Mais tu as une personne qui a une bonne machine qui va être capable de faire tourner le monde entier, et tu as une autre personne qui n'a pas la bonne machine et qui va être capable juste de bouger un petit objet. Pourtant, l'énergie reste la même. C'est la même pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas parce que deux personnes ne vont pas l'utiliser de la même manière que l'objet va changer. L'objet reste le même pour tout le monde. Atzmut Umaout, l'essence d'Akadosh Baruch Hu restera la même pour tout le monde sans aucune différence. La seule différence, pourquoi on nous dit que la Shrina sera plus présente à certains endroits que d'autres, c'est au niveau du dévoilement. Chez qui va se dévoiler plus, chez qui va se dévoiler moins ? Donc, si je reprenais l'exemple des enfants. D'accord ? On va reprendre l'exemple des enfants. On va dire, donc tu as un père qui a plusieurs enfants. Et pourtant, on va voir qu'a priori, il va favoriser, comment on dit ?
Favoriser.
Favoriser, oui. Il va favoriser un enfant plus que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Si on favorise un enfant plus que l'autre, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que cet enfant est plus mon enfant que les autres ? Non. Alors pourquoi tu le favorises plus que les autres ?
Parce qu'il en a besoin.
Peut-être qu'il n'en a pas besoin. Peut-être que je l'aime plus. Je l'aime plus. Alors, est-ce que je peux dire réellement que cet enfant est plus mon enfant que les autres et que j'aime plus cet enfant que les autres ? La réponse est non. Et pourtant, je le montre, pourtant, je le garde et les autres en sont jaloux. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Encore une fois, la réponse est là. Il faut faire la différence entre l'essence et les dévoilements. Si on se focalise sur l'essence, par rapport à l'essence, tous les enfants sont au même niveau. Tous les enfants proviennent de l'essence du père et de la mère. Il n'y a pas de différence. Tous les enfants sont les mêmes. Où va exister la différence ? La différence va exister au niveau du dévoilement. Il y a des enfants envers lesquels le père va plus se dévoiler, et des enfants envers lesquels le père va moins se dévoiler. Mais au niveau de l'essence, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que chez un on va plus se dévoiler, chez l'autre on va moins se dévoiler, que ça voudra dire qu'il y a moins d'essence. C'est deux vecteurs complètement différents. Le vecteur de l'essence, c'est un vecteur qui sera le même chez tous les enfants. Tous mes enfants seront exactement les mêmes, peu importe. Même si tu as un duquel je suis très content et un autre duquel je ne suis pas du tout content. Un qui me fait du plaisir, qui est la fierté de la famille, et l'autre qui est la honte de la famille. Les deux seront mes enfants. Les deux seront mes enfants à 100%. Les deux viendront de mon essence. Sauf que, envers un enfant, je veux plus dévoiler mon sentiment, et envers un autre enfant, je veux moins développer mon sentiment. Ça veut dire qu'il faut bien faire la différence entre ces deux vecteurs. Le vecteur de l'essence qui restera le même pour tout le monde, et le vecteur du dévoilement, dans lequel l'un peut avoir du favoritisme.
Il n'y a pas de différence de qualité.
Dans l'essence, aucune.
Et par exemple,
il ne peut pas y avoir.
Pour l'enfant, c'est comme pour l'huile. On dit que la première pression, c'est la meilleure, souvent.
Non. Pourquoi c'est la Arizal explique. Il dit pourquoi on dit que le Bechor, il est toujours, le premier, il a toujours plus d'importance que les autres. Le Arizal explique, il dit parce que l'énergie que le père il transmettra aux enfants, après, elle passera au travers du premier-né. D'accord ? On le voit clairement, on voit que le chemin qui prend le premier-né en général, c'est le chemin que les autres vont suivre en général. C'est comme ça. Le chemin que le grand frère a pris, le chemin que la grande sœur a pris, en général, par défaut, il faut vraiment que les frères se battent pour ne pas le suivre. En général, ils le suivent, c'est comme ça. D'accord ? On est d'accord ? C'est un principe.
Oui.
Après, il y a des exceptions.
Oui, oui.
Hmm, tu vas dire
comme moi.
Comme moi, oui. Alors, au contraire, donc ils ont vu l'exemple à ne pas prendre. Non, tu n'as pas l'air de ne pas avoir travaillé à l'école.
L'histoire de Jacob et Yosef.
Oui.
On voit bien que Yosef, il a pris tout.
Favoritisme.
Non.
Oui, mais attention. Alors justement, c'est ça. Par exemple, tu vois Jacob et Yosef. Est-ce que ça veut dire que Yosef était plus l'enfant de Jacob que les autres? La réponse est non.
Il a pris toutes les midotes de son père.
Très bien. Au niveau du dévoilement. Ça, il ne faut pas oublier. Au niveau du dévoilement, tu peux avoir des différences. Ah, je peux aimer un enfant plus que l'autre au niveau du dévoilement. Mais au niveau de l'essence, c'est la même chose. Au niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, on est tous les mêmes. Le Gan Eden, le Gehinom, c'est la même chose. Au niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même essence d'Akadosh Baruch Hu qui fait tourner tout ça. Aucune différence. Aucune. Il ne peut pas y avoir de différence. C'est comme l'exemple de l'enfant. L'enfant qui est la fierté de la famille et l'enfant qui est la honte de la famille, les deux sont mes enfants. C'est pas parce qu'un enfant ne me fait pas plaisir que c'est plus mon enfant. Il sera toujours mon enfant. Et même si Dieu préserve un parent décidera de déshériter son fils, c'est pas pour autant que son fils sera moins son fils. Il restera toujours son fils. Il peut dire je suis pas d'accord, tu peux sauter en l'air, ce sera toujours son fils. Pourquoi? Parce que l'essence, ça ne bouge pas. Par contre, le dévoilement, ça peut changer. Je peux décider de donner ou de ne pas donner. C'est la même chose avec le Kadosh Baruch Hu. Au niveau de la sensibilité, dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure, tu peux avoir des différences. Tu peux en avoir qui ont une sensibilité 0, tu peux en avoir qui ont une sensibilité 10 décibels, tu as une sensibilité 1000 décibels. Après, tu peux avoir des différences, tu peux avoir des niveaux. Ça, c'est au niveau du dévoilement, de la sensibilité. Mais au niveau de l'essence, on est tous les mêmes. Peu importe les avérotes qu'on a fait ou les mitzvot qu'on a fait. Dans les mots, Sheze Echad, donc dans le crochet, Sheze Echad me'ata amim, she'ashpa ve'amshachot achayut mechuna be'shamar derech mashal. Très intéressant ce qu'il dit le Morazaken. Il dit c'est pour ça que chaque fois qu'on ouvre des livres de Kabbalah, on voit que chaque fois qu'on veut nous parler d'une émanation divine, on appelle ça une lumière. Qu'a rapport avec la lumière?
Pardon.
D'accord. Qu'a rapport avec la lumière? C'est une émanation. Qu'a rapport avec la lumière?
Ça fait 24 heures que je suis qui chronique comme ça.
Parce que la lumière, elle a une source, d'accord, et elle envoie des rayons.
Et pourquoi on appelle ça de la lumière? Est-ce que Dieu, c'est de la lumière?
J'ai pris médicament, mais c'est pas ça.
Ça vous dit quelque chose, ça? Chaque fois qu'on parle de Dieu, on dit Dieu, c'est la lumière. La lumière de Dieu, la lumière divine. Ça vous dit quelque chose, la lumière divine? C'est un terme qu'on a entendu souvent. Pourquoi on parle de lumière?
C'est pour ça que c'est perçu. Mmh.
Pourquoi on parle de lumière? Oui, mais pourquoi on parle de lumière?
Par rapport à ton niveau de conscience, tu vois la lumière.
Parce que, encore une fois, pourquoi on parle de lumière? Parce que dans la lumière, on voit clairement que dans la lumière, lumière est synonyme de dévoilement. Et tu peux avoir la lumière du soleil, d'accord? C'est quoi la lumière? C'est-à-dire qu'on va te dévoiler quelque chose qui était caché. Ici, si j'éteins la lumière, d'accord? Écoutez bien, si j'éteins la lumière ici, les livres seront toujours là. Qu'est-ce que va faire la lumière? La lumière va me dévoiler, d'accord, quelque chose qui était déjà là. C'est ça la lumière. D'accord? Donc la lumière, c'est quoi? Ça va?
Non, je suis toute la nuit comme ça, le hockey. Ça fait 24 heures que je le hockey.
Donc, prends un café peut-être.
Pourtant, c'est une image.
Bien sûr. Quand on parle de lumière, d'accord? Quand on parle de lumière, il dit la Mourazaken, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est synonyme de dévoilement.
La révélation.
Révélation. Encore une fois, je reprends mon exemple. Si j'éteins la lumière de cette pièce, est-ce que pour autant les choses ne sont plus là? Tout sera là. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai allumé la lumière? D'accord?
Dévoilé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est dévoilé. Donc c'est pour ça que dans la Kabbalah, chaque fois qu'on parle de... Chaque fois qu'on parle de lumière, chaque fois qu'on parle d'émanation divine, on apparente ça à la lumière. Pourquoi on apparente ça à la lumière? D'accord? Pourquoi on apparente ça à la lumière? Écoutez bien, monsieur. Pourquoi on apparente ça à la lumière? Parce que Akadosh Baruch Hu est présent de la même manière partout. La seule différence, c'est que dans certains endroits, il sera plus dévoilé que dans d'autres. C'est comme l'exemple du père. Le père sera le père de tous ses enfants. La seule différence, c'est qu'envers certains enfants, il va plus se dévoiler qu'envers d'autres. C'est ça le favoritisme. Et c'est pour ça qu'on parle de dévoilement. Envers certains endroits de la nature, Akadosh Baruch Hu va plus se dévoiler. À Deintig, dans l'exemple de tout à l'heure, envers ce Chassid-là, envers Rabbi Simcha Bounim, la Shrina s'est plus dévoilée. Mais ça ne veut pas dire que la Shrina était plus présente chez lui.
D'après ce que tu es en train de dire, Hachem, il fait du favoritisme.
Hachem, il fait du favoritisme au niveau du dévoilement. Oui, pas au niveau de l'essence.
Oui,
il fait du favoritisme. C'est pas du favoritisme. Non? Hachem ne fait pas de favoritisme. Hachem, écoute, quand Hachem, il donne. D'accord? Maintenant, quand Hachem il donne, tu dis pour que tu reçois, pour que tu sentes que tu reçois, il faut te mettre en condition.
Il fait du favoritisme quelque part.
Non, c'est pas du favoritisme. Tu te mets en condition, tu reçois, tu te mets pas en condition, tu reçois pas. Faut faire le Kelly. Mais le Kelly, c'est uniquement, d'accord ? Le Kelly, c'est uniquement au niveau du dévoilement. Mais au niveau de l'essence, tout est la même chose. Et avec ça, bon, on n'aura pas fini aujourd'hui, c'est ça. On va développer encore dans le chapitre 52.
On a compris quand même le...
Oui, le concept. Alors, les achayot haolamot ve'aberuim shebahem shebahem shaolamot elyonim mekablim b'chinus gilui tzad eter matartonim ve'chol haberuim shebahem mekablim kol echad kefi kocho tchunato. Donc il dit comme ça. Qu'est-ce qui va faire qu'un monde va être un monde supérieur, un autre monde va être un monde inférieur? Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce que je viens d'expliquer? C'est que les mondes supérieurs vont plus recevoir, vont avoir une sensibilité qui est beaucoup plus accrue, qui est beaucoup plus raffinée. D'accord? Donc du coup, chez eux, quand on se gratte les cheveux, ils sautent en l'air. Chez nous, pour qu'on bouge, il faut que le monde y tremble. Sinon, on bouge pas, sinon on n'a rien entendu. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a rien entendu. L'autre, à peine tu te grattes les cheveux, tout de suite, il a vu des dévoilements divins. Le tzadik, il voit que... dévoilement divin. Nous, il faut qu'il y ait un tremblement de terre pour qu'on sente que Kadosh Baruch Hu est présent. C'est pas pour moi, en tout cas. Le chol abruim shebahem.
Tu imagines, nous.
C'est pas pour moi. Mais kablim kol echad kefik kocho utrunato shei trunat uprinat amshacha pratit asher ensa baruch hu mamshich hu meirlo. De la même manière qu'on a expliqué que dans le corps, l'essence divine, l'essence de la Neshama est présente dans tous les membres du corps. Mais le dévoilement de la Neshama ne sera pas le même partout. Le dévoilement de la Neshama qui sera dans une partie morte du corps. Et des parties mortes dans le corps. Comme par exemple, ici. D'accord ? Non, des peaux mortes. D'accord ? Les peaux mortes,
c'est pas très sensible.
Elles sont pas sensibles. C'est-à-dire que tu vas me pincer, ça va pas me faire mal. Donc c'est une partie dans laquelle la Neshama se développe le moins. Elle se développe le moins, elle se dévoile le moins. Mais l'essence de la Neshama est aussi présente. Sauf que, lorsque la Neshama va se dévoiler, alors elle va plus se dévoiler dans les endroits, d'accord, selon les caractéristiques des endroits. C'est pour ça que la Neshama va plus se développer dans le cerveau que dans, comment on appelle cet endroit-là? Que dans les peaux mortes, d'accord? Que dans la peau morte du bras. Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Pourquoi la Neshama se dévoile moins là-bas? La Neshama se dévoile moins là-bas parce que, selon les caractéristiques, c'est pas fait pour ça. D'accord ? C'est pas fait pour ça. C'est-à-dire cet endroit-là, apparemment, il n'y a pas grand-chose à tirer. Apparemment, en mode dévoilement. Mais l'essence de la Neshama est aussi présente dans ses peaux mortes que dans la tête. La même chose. On est d'accord ? Sauf que, quand on va passer en mode dévoilement, là, la Neshama sera plus présente dans le cœur, d'accord ? Que dans la tête. C'est pour ça que dans le cœur, que dans ses peaux mortes. C'est pour ça que si Dieu préserve, si Dieu préserve, une personne va perdre un doigt, il peut continuer à vivre. Et si Dieu préserve, on va lui couper, il va perdre sa tête, il peut continuer à vivre. Pourquoi? Dieu préserve. Parce que la tête est un organe vital. Qu'est-ce qui fait que la tête est un organe vital? Parce que la tête est un endroit dans lequel la Neshama se développe plus. C'est un réceptacle qui est plus grand. Mais ça ne veut pas dire que la Neshama est plus présente dans la tête qu'ailleurs. C'est ça le grand chidouche de Mourazaken, c'est qu'il faut faire la différence entre, je pense l'enfance est un très bon exemple aussi, il faut faire la différence entre l'essence et le dévoilement. L'essence est le même partout, le dévoilement ne sera pas le même partout. Véatartonim, je suis au point Véatartonim. Vous avez au point Véatartonim, la ligne qui commence l'eau. Je vais un peu vite parce que bon, je l'explique à l'oral. Véatartonim, afilu aruchnim. Et donc ceux qui sont en bas, nous qui sommes en bas, pourquoi on dit qu'on est en bas? A filo aruchnim, ça veut dire même ce qui est de plus spirituel dans le monde ici-bas. Einam mekablim biprinat gilui kolka rak bilbushim rabim. Nous, pourquoi Akadosh Baruch Hu se présente à nous? Il ne va pas se présenter à nous comme il se présente au Gan Eden. Quand Akadosh Baruch Hu va se présenter au Gan Eden, il va se présenter au travers d'un dévoilement divin. Nous, pourquoi Akadosh Baruch Hu se présente à nous? Il va se présenter au travers de rideaux, de voiles. Comment on va voir Akadosh Baruch Hu? Au travers de la Parnassa. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté sans problème. D'accord ? Oui, on peut passer à côté. On peut avoir des gens qui vont naître et ils vont mourir sans avoir pensé un seul instant qu'il y a un Dieu sur Terre. Vous pouvez prendre un paysan qui habite dans un pays, là, qui habite dans un village quelque part au fin fond de la France, d'accord ? Dans un bled au fin fond de la France qui ne sortira jamais de son bled, qui sera toujours occupé avec son tracteur et je sais pas quoi. C'est très fort possible qu'il n'a jamais pensé à Dieu. Très possible.
Fonctionnaire peut-être.
D'accord. C'est très possible qu'il a jamais pensé. Vas-y, prends un coup sec le.
Non, ça passera. Non, c'est, ça fait.
Ah
non, 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 ça
faut faire peur. Ça marche pas.
C'est écrit. Non, ça marche pas. C'est pas.
Quand on a le hockey, quand on a fait peur en général.
Oui, non, mais
on va la chercher.
Ça marchera pas.
Il a pas fait assez peur. Mais...
Non, parce que.
C'est pour ça qu'elle est rentrée.
C'est la première fois que je
cherche la défaillance dans le système.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a problème. Il y a le hockey qui est hockey. Il y a le hockey qui est dû à une irritation.
Ah, d'accord.
Ça fait 24 heures que je l'ai loqué, alors.
Ah, d'accord.
Imagine on est, ce que ça peut faire.
On a essayé de te faire peur, déjà.
On a essayé de se
T'as essayé une page de Guémara, t'as essayé. C'est ce qui marche le mieux, en général.
Donc, il dit comme ça.
Je vais me dormir, c'est dur.
Donc, je suis en train de dire ici que... Oui. Donc on est en train de dire que les mondes qui sont en bas, c'est-à-dire que nous, quand on vit dans ce monde ici-bas, d'accord. La révélation de Dieu est beaucoup plus difficile. Pour que Dieu se dévoile au Gan Eden, comme il fait Dieu, il dit, bon, venez, Yeshiva dans, on va se mettre à étudier. Hey, c'est bien, il s'est dévoilé. Nous, pour que nous, on voit Dieu dans notre monde, on doit essayer de retrouver Dieu au travers de la Parnassa.
Pourquoi tu parles de la Parnassa?
D'accord. Bon, par exemple, au travers de la Parnassa ou à travers différents signaux matériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de, voiles. Oui. Oui, au travers de signes.
Donc, il n'y a pas une révélation directe.
Donc ça veut dire qu'il y a plus de voiles. Donc s'il y a plus de voiles, il y a moins de dévoilement. Et nous, ce qu'on doit faire à chaque fois, on doit essayer de gratter et de chercher dans ces voiles, de trouver comment Akadosh Baruch Hu est présent.
On doit essayer de...
Le même Dieu, c'est le même Dieu qui est en haut. Sauf que le dévoilement est moins fort.
On doit essayer.
C'est sûr qu'on doit essayer. Asher Ensof Baruch Hu Malbish Bahem Achayut Vaor Asher Mamshich Laem Umeir Laem Lachayotam Vekol Kar Gav Atzmu Vegavru Alevushim. Tellement il y a de vêtements, tellement il y a de voiles, Asher Ensof Baruch Hu Malbish Mastir Bahem Aor Vachayut Ad Asher Barabo Lamazer Humri Vagashmi Mamash. A tel point que finalement, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a créé avec l'énergie divine, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé notre monde qui est matériel. Et que tu vois notre monde matériel, comme je vous ai dit, une personne peut naître et mourir sans penser un seul instant à Dieu. Comment c'est possible? D'accord. C'est ça la force du voile. Il y a eu tellement de voiles, de voiles, de voiles, de voiles, de voiles, que finalement, on ne voit plus. Je reprends l'exemple du fils avec son père. Tu as un père qui donne directement l'argent à son fils, et qui s'occupe directement de son fils. Et imaginez-vous un père qui va s'occuper de son fils au travers différents vecteurs, au travers d'un directeur qui va parler à un professeur, qui va parler à un élève, tatatata. Et du coup, c'est possible que l'enfant ne voit plus son père. Il voit son professeur. Il voit autre chose. Alors qu'en vérité, c'est possible que le message est passé de son père au travers de différents vecteurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'exemple n'est pas bon à 100%, mais on comprend ce qu'on veut dire ici.
Donc en fait, la forme la plus sûre, ce serait Prime de Vologine, il jouait une fois tous les 3 mois au loto et il gagnait.
La forme la plus pure, c'est...
La forme la plus pure, c'est le Tana qui a dit, quand sa femme n'arrive pas à faire du pain, il a reçu un...
La forme la plus pure se trouve chez les enfants. Parce que chez les enfants, ils ont la simplicité.
Et quand on...
Et oui, ils ont la simplicité, l'innocence. Et quand on a la simplicité, l'innocence, on a l'essence. Quand on a l'innocence, on a l'essence.
C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord.
Non, justement, on a l'essence, on a le dévoilement. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, ils ont une sensibilité. Ils ont une sensibilité envers la vérité. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas moi qui le dis. Les enfants ont une sensibilité vers la vérité qui est beaucoup plus forte que chez les adultes. D'accord.
Et c'est pour ça qu'on leur parle même d'HM ou autre. Ils parlent avec une impression, une sensibilité qui s'accroche.
Hein. Bien sûr.
HM, pour eux, c'est plus concret. Ils arrivent plus à concrétiser que...
C'est-à-dire que nous, on passe notre vie à se mettre des voiles.
Ouais.
C'est ça.
Non, nous, on passe notre vie à chercher les signes dans les voiles.
On commence déjà à voir, à s'en mettre plus.
C'est ça.
Donc il dit comme ça. Il dit, ah, Dacher Barabo... Olamazé à Khumri va Gashmi Mamash. Imaginez-vous tellement de voiles à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait la différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas? Les mondes d'en haut, c'est les mondes où il n'y a pas beaucoup de voiles. Les mondes d'en bas, hein, c'est quoi les mondes d'en bas? C'est ici le Gan Eden. Les gens croient que le Gan Eden c'est en haut. C'est là le Gan Eden. Vous croyez que le Gan Eden c'est en haut? Le Gan Eden c'est ici, c'est là. C'est ici, c'est là le Gan Eden. Sauf que quoi? Le Gan Eden, il faut avoir une certaine sensibilité. Vous croyez que les tzadikim qui voient le Gan Eden, ils ont besoin de monter, de faire un tour en haut? Vous croyez quand on dit que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, vous croyez qu'il est monté au ciel? Il est monté, comme ça il fait, allez hop, la fusée, il est monté. Et après il est redescendu avec un parachute. Ouh, coucou, j'arrive.
Super Moshe.
D'accord. Ça oui. Il est monté au Arsinaï. Mais quand on dit que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, quand on dit que les équipes sont montées au ciel, vous croyez qu'ils sont montés avec une fusée qui sont redescendus avec un parachute?
Bah oui, on croit, oui.
Ça se passe dans la tête. Dans notre tête, d'accord. Quand on arrive à retrouver Dieu au travers de la Parnassa, on vient de monter d'un cran. On vient d'enlever un voile, allez hop, pst. Toi, le voile de la Parnassa, je croyais que ça passait par le patron et par le club, etc. Pst. J'enlève le voile, c'est direct à Kadosh Baruch Hu.
D'accord, quand t'as découvert, ça sert à quoi?
Hein?
Quand t'as découvert,
ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à retrouver Dieu. Tu gagneras pas plus bien, tu gagneras pas un rond de plus. Tu gagneras moins peut-être.
Ah oui, mais c'est pas utile. Tu retrouves le banquier.
Ouais, tu retrouves le banquier. Et puis au banquier, tu lui dis, je sais que c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est pas vous. Ça ne vient pas.
Asher Mamshir Umeir Lo. Donc il dit comme ça. Umeaveu. Regardez ce qu'il va dire le Morazakim, c'est extraordinaire. Umeaveu, Umechayeu, Bechayut, Veor. Asher Mamshir Umeir Lo, Or, Amelubash, Umechusse, Umustar, Betor, Alevushim, Arabim. Et à Kadosh Baruch Hu, pour créer notre monde, il va devoir mettre tellement de voiles et tellement d'énergie cachée, voilée dans des voiles, etc. À tel point que Betor Alevushim, Arabim, Vatsumim, à tel point qu'il y aura tellement de voiles et de vêtements, ou Malstirim Arvachayut, à tel point qu'on ne voit plus après. On ne voit plus l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Hach en nir'e venigle shumar vechayut. À tel point que tu prends un verre, voilà, j'ai un verre ici devant moi. Encore, dans un homme, on voit de l'énergie. Dans un animal, on voit de l'énergie. Dans une plante, on voit de l'énergie. D'accord ? Et tu prends du domaine, tu prends du minéral, tu prends du plastique. Est-ce que tu vois de l'énergie ? D'accord ?
C'est pas du minéral, c'est du c'est végétal.
Oui, bon. C'est végétal, c'est vrai, parce que le plastique vient du...
Je te parle de ce qu'il y a dedans.
Du pétrole. Ah oui, d'accord. Il vient du pétrole, le pétrole vient...
D'essence.
De la...
Fossile, c'est fossile.
Ça vient de la forêt.
Non, c'est fossile. D'accord.
C'est à qui ce verre ?
C'est à toi.
Yankov, je crois qu'il a besoin de...
L'organique.
Il a besoin d'un peu d'essence.
Oui, non, c'est...
Envoie un peu d'essence à Yakov.
La grande synagogue de la Banque de France.
Il va dévoiler la Banque de France. Donc il dit ici, à tel point que HN Nigle Shum Orvechayut, à tel point que N Nigle Shum Orvechayut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne voit plus d'énergie. À tel point que tu prends ce monde-ci. On va essayer de retrouver au travers, voilà, j'ai ici un livre, d'accord? Je vais essayer de trouver une forme d'énergie. Je vais essayer de retrouver Akadosh Baruch Hu. Tu ne trouves pas Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je vais trouver? Un objet inerte. Venir im metim, ils ont l'air morts. Et ça, écoutez bien, écoutez bien, c'est le chidush qui dit Admor Hazaken. C'est énorme le chidush qui dit Admor Hazaken. C'est quoi la troisième racha de la mina? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire revivre des morts. Le chayam metim. Admor Hazaken va dire, la grande nouveauté de Dieu, c'est pas qu'il fait revivre les morts. C'est basique pour lui. La plus grande difficulté pour Akadosh Baruch Hu, c'est de faire des morts. Pourquoi? Parce que normalement, puisque tu me dis que tout ce qui existe ici, en vérité, c'est de l'énergie divine, qui est passée par des voiles et par des voiles, donc rien ne doit être mort. Donc si j'ai une chose qui a l'air mort, c'est un plus grand miracle que de faire revivre les morts. Imaginez-vous combien de voiles la Kadosh Baruch Hu a faire pour prendre de l'énergie, d'accord, et que tu la vois, tu crois qu'il n'y a rien. Imaginez-vous combien de voiles.
Comme une pierre.
D'accord? Comme une pierre, ouais. Tu vois une pierre. Elle peut rester là comme ça pendant des années, elle ne bougera pas. Imaginez-vous combien de voiles la Kadosh Baruch Hu a dû mettre pour que cette pierre-là, quand tu la vois extérieurement, comme tu as dit, tu ne vois pas d'énergie. C'est un plus grand miracle pour la Kadosh Baruch Hu de faire des morts que de faire revivre des morts. D'accord, David?
C'est ce que pensent les Indiens.
D'accord.
Ouais. Oui, c'est ce qu'il dit ici. C'est facile pour se faire revivre des morts, c'est rien du tout. Par contre, de faire un mort, de faire quelque chose dans notre monde et l'air mort, c'est très dur, c'est contre la logique. Comment tu prends de l'énergie? Comment de l'énergie peut générer quelque chose de mort? C'est impossible.
Ah, Daniel, je crois qu'il dort, mais non.
C'est pas possible, c'est impossible. Quand tu me dis que de l'énergie a généré un homme qui est également de l'énergie, parce que bon, le corps, on va dire, c'est de l'énergie. On voit que le corps, il pousse. Le corps d'un homme, il pousse. Le corps d'un homme, on voit une certaine énergie. On voit qu'il peut se détériorer. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais prends un minéral. Quelque chose, tu peux le laisser des centaines d'années, il ne bougera pas. D'accord ? Et tu me dis que ça, en vérité, c'est de l'énergie divine. C'est possible. Imaginez-vous le nombre de voiles qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire. Ça, c'est un miracle. Et c'est ça ce qui fait la différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Les mondes, dans les mondes d'en haut, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Dans les mondes d'en bas, Akadosh Baruch Hu va tellement se voiler, à tel point que quand tu vois l'objet, tu vois pas d'énergie.
D'accord. Alors à ce moment-là, d'accord. Okay. Comment ça se fait qu'un objet, il va être tort ou il va être tamé ?
C'est autre chose.
Non mais quel rapport ? J'ai quand même de l'essence.
Tu as raison, qu'effectivement, par rapport à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, rien ne peut être impur.
Voilà.
C'est vrai ? Sauf que, nous, Akadosh Baruch Hu, notre mission dans ce monde, c'est de dévoiler. Quand je prends, par exemple, un verre de whisky, je vais faire une bracha. Je fais une bracha dessus, je suis à Kol Yabidvaro. Pourquoi je fais une bracha ? On dit, je fais une bracha pour récupérer les incelles de Kdusha. Mais le verre, avant que je fasse le whisky, avant que je fasse la bracha, c'était déjà l'essence de Dieu.
Oui.
Alors qu'est-ce que ma bracha va changer ?
On révèle.
Révélation. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu attend de nous de révéler la présence divine dans le monde ici-bas. Et une fois qu'on aura révélé assez de présence divine dans le monde ici-bas, après, Akadosh Baruch Hu dira, maintenant, je vais vous montrer l'essence. On ne peut pas comprendre. Maintenant, nous, on ne peut pas comprendre comment montrer l'essence. Nous, on essaye de révéler, point par point. On va révéler l'étincelle qu'il y a dedans. Mais tu as raison, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas besoin de nous. Et c'est pour ça que le roi Salomon, il dit que par rapport à un certain niveau, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu fais une mitzvah, ça ne me fait rien. Tu fais une amvera, ça ne me fait rien non plus. Pourquoi ça ne lui fait rien ? Pas parce qu'il n'en a rien à faire. Parce que tu resteras son fils de toutes les manières. Pourquoi c'est pas qu'il n'en a rien à faire, c'est que de toutes les façons, quoi que tu fasses, ça restera toujours l'essence de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas l'essence de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas l'essence de Dieu. Même nos excréments, de la même manière dans le corps.
Oui, c'est ça,
d'accord,
oui.
Même les excréments de notre corps, qu'on a envie de s'en débarrasser, l'essence de la Neshama est là-bas. Elle est autant là-bas que dans la tête. Et pourtant, on a envie de s'en débarrasser. Les excréments de notre corps. On veut s'en débarrasser, il me casse les pieds, il m'énerve. J'arrive pas à... Là, tout à l'heure, t'avais un rose, d'accord ?
Ah, ok,
d'accord ? Eh ben, le ok, c'est l'essence de la Neshama.
J'ai toujours le ok.
Bien qu'il te dérange.
Toujours, hein. Sauf qu'il est... Oui, oui.
C'est la présence divine.
Je le sers, oui, oui.
Elle est plus révélée en ce moment.
On verra. Je ne souhaite pas d'avoir ça pendant plus de 24 heures. Ça fait 28 heures de ok, tu vas voir. Ça t'anéantit.
Le taux de coué.
Tu vas voir des clients aujourd'hui ? Ouais. Comment t'as fait ?
Je sais pas, il y a des moments où ça s'est calmé un peu. Juste ça revient.
Et qu'est-ce que l'homme il a gagné à dévoiler
Rien du tout. C'est la soumission.
Il a gagné.
Non ? On n'a rien à gagner ici. On n'est pas là en train de faire du. On n'est pas là en train de faire notre patrimoine. Business. Non ?
Il y a toujours un but.
Non, il y a une différence.
Le but, c'est de faire ce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, son plaisir, dira Bet Artonim, c'est de faire une demeure ici-bas. Akadosh Baruch Hu, son plus grand plaisir, c'est de voir comment on va récupérer des incelles de Kdusha, on va dévoiler, on va faire des éléments. Celui qui dit que le but pour lequel on travaille, c'est pour un Gan Eden, c'est faux. Parce que le Gan Eden en soi, c'est déjà une création d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour ça que Dieu a créé le monde. Notre but, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Je dis pas qu'on n'aura pas de Gan Eden. C'est comme un enfant. D'accord ? Il va aller à l'école, on va lui donner un bonbon quand il a ramené des bonnes notes. Il n'a pas amené des bonnes notes pour le bonbon. C'est pas pour ça qu'il a travaillé. Il a travaillé parce qu'il a travaillé. Et pourquoi il a travaillé ? Pourquoi il a travaillé à l'école ?
C'est son devoir.
Mais pourquoi il a travaillé à l'école ?
C'est ce qu'il doit faire.
Parce que sinon il n'aura pas de parnassa. Et pourquoi il lui faut une parnassa ?
Pour
pouvoir survivre. Et pourquoi il faut survivre ?
Pourquoi
il faut survivre ? Si tu avances, tu es bloqué, c'est fini. Il n'y a pas de raison. Et pourtant, l'enfant, il est sûr qu'il a travaillé à l'école pour gagner sa PlayStation. Sa PSP ou je sais pas quoi. D'accord ? Mais en vérité, est-ce que c'est pour ça qu'il a travaillé ? Non. Il a travaillé pour plus tard avoir un travail. Enfin, il pense. Pour avoir plus tard un travail. Pourquoi il a un travail ? Pour gagner de l'argent. Pourquoi il a de l'argent ? Pour survivre. Pourquoi il survit ?
Pour mourir.
Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne question. Pourquoi je survis ? Pourquoi finalement je vis ? À quoi ça sert ? Et je vais kiffer. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces kiffs après ? Après, au bout de 120 ans, Inch'Allah, le Zrat Hashem, il va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire tout de suite ?
J'aurais eu 120 ans de kiff.
J'aurais eu. Mais c'est qui j'aurais eu ? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir sans attendre de kiff ?
Une fois que tu as kiffé, bah, tu ne vois plus de la même.
C'est qui moi j'ai kiffé ? Pourquoi je kiffe ? Il n'y a pas de réponse, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'essence de la Neshama, on vit avec toute la journée, et pourtant, vous voyez, des simples questions, pourquoi on vit ? Pourquoi on vit ? Alors Baruch HaShem, bon, c'est lui, on va dire, on vit parce que Dieu veut qu'on vive. Bon, on a reporté le problème. On ne peut pas comprendre. Seulement, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attendez-vous ? D'accord ? Kadosh Baruch Hu attendez-nous, il dit, je veux que vous dévoilez, c'est notre tikkun de Adama Rishon, et en général, Kadosh Baruch Hu dit, je veux que vous dévoilez et que vous recherchez dans chaque particule du monde l'essence divine, les étincelles divines. Et ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est sa volonté. Kadosh Baruch Hu, il veut. Pourquoi ? On a expliqué dans le chapitre 36. Parce que c'est, ça lui fait plaisir de voir. Pourquoi ça lui fait plaisir ? Je ne sais pas. Peut-être un jour on comprendra. Peut-être plus, peut-être non. Je dis pas que, attention, je dis pas qu'il n'y a pas de Gan Eden. Je dis pas qu'il n'y a pas de récompense. Je dis pas que Dieu ne récompense pas. Mais c'est un bonbon. On travaille pas pour le bonbon. En vérité, bien sûr qu'il y a un bonbon, mais en vérité, on travaille pas pour le bonbon. Vous voyez que, je vous donne un simple exemple d'un élève qui travaille à l'école. Pourquoi il travaille à l'école ? Pour avoir une bonne note. Pourquoi il a une bonne note, etc. Vous voyez qu'à la fin, dès que j'arrive, pour survivre. Pourquoi il va survivre ? Lui-même, il ne sait pas. Mais il ne pense pas à ça, l'élève. On ne pense pas à ça, nous aussi. Je ne dis pas que chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense à Kadosh Baruch Hu. Mais quand on réfléchit, on essaye d'aller au maximum de la chaîne, on est bloqué. À un certain moment, on est bloqué. Mais d'accord ? À un certain moment, on voit que il n'y a plus. Ar betoham Yesh or vechayut ameave otam me'ain liyesh tamim. Mais il nous dit, c'est la Gemara Zakai, nous dit, même dans notre monde, et même dans les parties les plus basses de notre monde, qui nous ont l'air inertes, qui nous ont l'air impures, qui nous ont l'air déplacées, qui nous ont l'air mortes, même dans ça, il y a une énergie et une vitalité qui est en train de les créer constamment, sans cesse. Mais Aïn Leyesh Tamid, d'accord, comme on expliquera, comme on étudiera Bezrat Hashem dans le char Echoud Vaimouna, qu'on étudiera après cette première partie du Tania, donc qui est constamment en train de les faire vivre, mais Aïn Leyesh en train de les créer ex nihilo, constamment. Chez Lo Yarzeru Liot Aïn Vefes que chez Ayou, pour pas qu'ils redeviennent néants comme ils étaient. Fait Orze, ou Mien Savaruchou. Qu'est-ce qui fait que la pierre reste une pierre ? C'est pas qu'un jour Dieu a créé une pierre et qu'après elle reste comme ça. Le fait que la pierre reste une pierre, c'est parce que constamment, il y a une énergie d'Akadosh Baruch Hu qui est là en train de créer cette pierre. Et c'est pour ça qu'on dit, donc, tous les matins dans notre filet, on dit « Amechadesh betuvo, bechol yom tamid ma severeshit » que si un seul instant Akadosh Baruch Hu arrêterait de renouveler la nature, ça s'arrêterait. Constamment, Akadosh Baruch Hu est en train de créer un sentiment d'indépendance. Constamment, Akadosh Baruch Hu est en train de créer avec de l'énergie des choses qui auront l'air mortes. C'est énorme. Je sais pas, c'est un paradoxe. C'est comme si, imaginez-vous, c'est comme si je vous dis, je vais être l'ami de quelqu'un, mais tellement je vais lui donner que je vais tellement cacher ça qu'à un certain moment, celui qui va voir, il va croire qu'on est des ennemis. Et lui, même l'autre, il va croire que c'est mon ennemi. Mais en vérité, c'est mon ami. Mais attends.
La combinaison pour la matière.
Mon ami ou mon ennemi ? Impossible. D'accord ? Et celui qui va prendre du recul, il va voir que oui, en vérité, c'est mon ami. Mais pourtant, lui, il croit que c'est mon ennemi. Il y a eu tellement de voix qu'il croit que c'est mon ennemi.
David, mon ami.
Et c'est ça. C'est l'exemple avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il y a tellement de voiles, de voiles, de voiles, de voiles que tu vois, t'as l'impression que c'est mort. Mais en vérité, il y a de l'énergie. Comment c'est possible ? Mais c'est ça ce qui fait la différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Les mondes où il y a plus de dévoilement, les mondes où il y a moins de dévoilement. Mais l'essence est la même partout. Rak, Shenitlabesh, Bilvushim, Rabim. Donc moi, Shekatouf, Be'etzraïm, on va conclure avec ça. Comme c'est écrit dans Etzraïm, donc dans Etzraïm de Rabbi Chaim Vital, She'or Vechayut Kadur Aaret Sachumri, que l'énergie de la. Qu'on appelle ça
Kadur, le globe.
Donc le globe, d'accord ? Le globe de la Terre, matériel, physique, le globe, d'accord ? Amir Elenebassar, le globe physique, le globe qu'on voit. Ou mi malchut et malchut d'Assia provient du voile de malchut d'Assia. Moi, bon, c'est des termes kabbaliques, je ne veux pas développer aujourd'hui. Ou betocha malchut de Yitzira. Roulé, achi betor kula miutsirot de atsilut amiuchadet matsilan ensav baruchu. C'est le principe du voile. C'est quoi le principe du voile ? C'est que tu prends un voile tout seul, tu as l'impression que c'est rien du tout. Et si tu mets 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, au final, qu'est-ce que tu reçois de l'autre côté ? L'obscurité. Et Spikrabi Chaim Vital, il dit que notre monde à nous, c'est quoi ? c'est le niveau de Malchut du monde de Asiya, dans lequel, d'accord, va venir, donc ça c'est le niveau le plus bas, dans lequel va venir le niveau de Malchut de Bria, d'accord, non pas de Yetira, Chazak, de Yetira, dessus va venir le voile de Bria, et dessus va venir le monde de Atzilut. Mais en vérité, l'énergie qui nous parvient est obligatoirement passée par le voile de Atzilut. Bon, c'est l'état kabbalique, c'est pour ça que j'ai fait ça pour la fin, je ne veux pas trop développer. D'accord. Ce qui veut dire, c'est que c'est de l'énergie qui nous provient en direct de Atzilut. Donc Atzilut, c'est le Gan Eden, ça veut dire que l'énergie qui me fait vivre ce verre ici que j'ai devant moi, c'est la même énergie qui est au passage, elle est passée par le Gan Eden. C'est la même énergie. Et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est une énergie qui va te créer du mal. Qui va te créer une boîte de nuit. La même énergie qui a fait le Gan Eden, c'est la même énergie qui a créé la boîte de nuit. Comment c'est possible? Le voile. Des voiles. Et après, à la fin, il n'y a plus rien.
D'accord, donc quand on dit que ce qui se passe en bas, c'est déjà passé en
haut... Enfin, on ne voit plus rien, pardon.
Quand on dit que ce qui se passe en bas, c'est déjà passé en haut, et quand il y a un problème en bas, c'est la contestation d'un problème qui est en haut, on parle de mandat...
Bien sûr. Quand un tzadik, il fait... Des fois, on va voir un tzadik. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Le tzadik va dire... Il va t'amener une bracha. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Comment il fait le tzadik pour amener la bracha? C'est quoi bracha? Le tzadik, il va faire descendre la bracha. Mais comment il va faire descendre la bracha? C'est parce que le tzadik, il voit la chose telle qu'elle est à l'état initial avant les voiles. Nous, on la voit après tous les voiles. Donc après tous les voiles, on dit, il n'y a rien à faire. C'est fini. On voit pas d'où vient le problème. On voit pas comment arranger le problème. Et on voit pas comment on se sortira du problème. Mais le tzadik, il voit la chose, quand Dieu lui montre, il voit la chose avant le voile. Donc il se dit, attends, il y a un problème là. Tout de suite, il voit. Il voit la même réalité que nous, mais sauf qu'il la voit sans les voiles. Il voit autrement la réalité. Ça veut dire que ce qu'on va conclure du cours d'aujourd'hui, alors on n'a pas encore... On a besoin du cours, pas de la semaine prochaine, qu'on fera Bezrat Hashem après Pessah. C'est un cours très important, parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on expliquait par rapport à la Neshama? Par rapport à la Neshama, on a expliqué qu'il y a trois phases. D'accord? Il y a la phase... Il y a la phase de l'essence. L'essence de la Neshama qui est présente partout de la même manière. Qui est présente dans les excréments comme dans le cerveau. D'accord? Il y a la phase... Après, quand cette Neshama va se dévoiler dans le cerveau, le centre nerveux. Et c'est pour ça que même en médecine aussi, aujourd'hui, on dit que le cerveau, c'est lui qui donne les ordres, c'est de lui que tout vient, etc. C'est de lui que tout provient. C'est le cerveau qui domine tout, comme on a expliqué la semaine dernière. Et après, troisième phase, d'accord, c'est quoi la troisième phase? C'est l'énergie telle qu'elle va se dévoiler dans le corps. Aujourd'hui, ce qu'on a expliqué par rapport à Kadosh Baruch Hu, on a dit que de la même manière par rapport à la Shrina, il peut dominer tout. Par rapport à la Shrina,
je dirais d'accord, dominer mon hockey, il n'y arrive pas là-dessus.
Par rapport à la Shrina, je raconterai une histoire après.
Bon, il ne peut pas...
Par rapport à la Shrina, de la même manière par rapport à la Shrina, écoutez bien ce qu'on a expliqué. Aujourd'hui, par rapport à la Shrina, on a expliqué la première phase et la troisième phase. Première phase de la Shrina, c'est quoi? C'est l'essence. C'est la Shrina qui est présente partout de la même manière. L'essence de la Kadosh Baruch Hu. Elle est présente partout de la même manière sans aucune différence. Troisième phase de la Shrina, c'est quoi? C'est la Shrina après, telle qu'elle va se dévoiler dans chaque endroit selon les caractéristiques de l'endroit. Donc les mondes d'en haut, les mondes d'en bas. La sensibilité accrue, la sensibilité d'accord, raffinée, et la sensibilité grossière. Ça, c'est la troisième phase. D'accord? Mais nous, on aimerait savoir maintenant, hein, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le centre nerveux d'Akadosh Baruch Hu? Parce que rappelez-vous, dans l'année Neshama, on a dit que le centre nerveux, c'est où? C'est dans le cerveau. C'est quoi le centre nerveux d'Akadosh Baruch Hu?
C'est le Betamidash.
C'est quoi le centre nerveux d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le cerveau d'Akadosh Baruch Hu? Ça, Bezrat Hashem, on développera après Pessah. Faudrait conclure avec une petite histoire. Je vais noter le nom, parce que... Attends, une seconde. Ouais. Alors, il dit comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit que... C'est une histoire qu'on raconte avec le Saraf. D'accord. Il y avait un grand tzaddik qu'on appelait le Saraf Uri de Stralisk. Il vit, je ne sais pas en Pologne, quelque part, qui s'appelle Stralisk. Le Saraf. D'accord.
Saraf, c'est Rafa, non
ouais. Saraf. C'est un nom. Et on raconte que lui, quand il est parti de ce monde-ci, lui, il avait l'habitude, quand il faisait cette fila, on dit que c'était comme du feu. C'était bouillant. Et on dit que c'est Chassidim, quand il faisait la fila, à 10 km, on savait qu'il était en train de faire la fila. C'était bouillant, il criait, etc. Quand il est parti de ce monde, d'ailleurs on l'appelait le Saraf. Saraf en hébreu, ça veut dire du mot brûlé. C'était, bien sûr, très fort. Et on raconte, quand il est parti de ce monde-ci, lorsqu'il a quitté ce monde, ce tzaddik, ses élèves ont cherché, bon, malheureusement, il n'a pas laissé de personne pour le remplacer, donc ses élèves ont retrouvé une personne qui en pensait qu'il pouvait le remplacer, qui était le tzaddik de Rougine, qui est très connu aussi. Et donc, première chose qu'ils ont vu, ils ont dit, on va voir comment il prie. On va voir, nous on est des pros de la prière, nous on connaît la prière. On va voir comment il prie. Et première prière, ils voient, très calme. Très rapide, très calme. Bon, ils se sont dit, bon, certainement qu'il y a un truc, etc. Peut-être qu'il a déjà fait, ou il a déjà... Et bon, quelques jours sont passés, et ils ont vu que c'était pas du tout comme leur rabbi d'avant. Donc ils lui ont posé une fois la question. Ils ont dit, rabbi, écoutez, c'est pas qu'on vous met en doute, mais on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il leur a répondu, le chassement, il leur a dit, c'est écrit, Enra Besetera. Le roi David, il dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit, je te répondrai dans le secret du tonnerre. C'est quoi le secret du tonnerre? Il faut se méfier des gens qui parlent pas. Il faut se méfier des gens calmes. D'accord? Il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit, exactement. D'accord? C'est que des fois, dans le secret, on peut retrouver un tonnerre. Bon. Les élèves ont dit, bon, il n'y a pas de problème, on a vu que notre maître respectait beaucoup le tzaddik de Rougine, donc certainement qu'il y a quelque chose à apprendre. Et ils ont attendu quelques jours. Une fois, il y a un de ses élèves, il lui dit, est-ce que tu peux m'amener, s'il te plaît, un café? Un café? Je vais lui prendre un café. Maintenant, l'élève, il ne savait pas, est-ce qu'il fallait lui amener le café avec sucre ou sans sucre?
Avec de l'eau, beaucoup d'eau. Oui.
D'accord? Donc, il lui a amené le café, avec une carotte sucre à côté. Oui?
Oui.
Il s'est dit, bon, s'il veut le mettre du sucre, il mettra. Il amène le café avec le sucre à côté. Donc, il lui met le café, et il boit le café sans mettre le sucre. L'élève revient quelques minutes plus tard, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le tzaddik de Rougine qui tient le carotte sucre dans sa main. La structure du carotte sucre est toujours là, et l'intérieur s'est vidé. On dirait que la main du tzaddik a mangé, a sucé le carotte sucre de l'intérieur. C'est incompréhensible. Alors, il regarde, il essaie de voir dans tous les sens, enfin discrètement, quoi, mais il n'arrive pas à se retenir. Et, d'accord? Non, pas du tout. Il dit, mais excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Alors le tzaddik lui dit, je vais te raconter ce qu'il dit le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, hein, je conclue avec ça, et le Ibn Ezra, il dit à propos de quand on a reçu la Torah, on dit que Chol Ha'am Roim Et HaKolot. On dit que lorsqu'on a reçu la Torah, hein, le peuple voyait les voix. Et l'Ibn Ezra, il pose des questions, il dit, mais c'est vrai qu'on voyait des voix, une voix, ça se voit pas. Une voix, ça s'entend, ça se voit pas. Et là-bas, l'Ibn Ezra, il dit, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, je vous dis dans les mots, je l'ai noté, il dit, Kol Ha'adragot Mitrabrot B'makom Echad. Il dit que tous les sens de l'homme peuvent se regrouper, d'accord, autour d'un endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il explique là-bas l'Ibn Ezra, qu'autour du cerveau, dans le cerveau se trouvent tous les sens en vérité. Et que si une personne arrive à maîtriser son cerveau, il est capable de manger avec sa main.
Et de voir avec ses oreilles.
Et de voir avec ses oreilles. Et d'entendre avec ses yeux. Vous allez me dire c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Moi je ne sais pas le faire. Le Ibn Ezra lui dit. D'accord. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit le Ibn Ezra? D'accord. Le Ibn Ezra, il dit la chose suivante là-bas, il dit que. On peut manger en touchant, on peut voir en regardant, on peut regarder avec les oreilles.
D'accord.
Comment c'est possible? Parce que c'est le cerveau. Le centre nerveux, le cerveau, celui qui arrive à maîtriser son cerveau, il est capable de faire, enfin les Chinois ils parlent beaucoup de ça, il est capable de faire ce qu'il veut à n'importe quel membre de son corps. Et ça c'est extraordinaire. Et ça c'est les trois phases. La première phase, et je conclue avec ça, la première phase c'est l'essence de la Shrina. L'essence de la Neshama qui est présente partout de la même manière. La troisième phase, c'est Dieu tel qu'il va se dévoiler dans des endroits différents, et donc il ne se dévoilera pas de la même manière partout. Dans une pierre, on ne verra pas Dieu, bien qu'il est là. Alors que dans le Kodesh HaKodeshim, en Saint-Essent, on verra Kadosh Baruch Hu. De la même manière, la Neshama, elle ne se dévoilera pas partout de la même manière. Mais c'est quoi le deuxième niveau? Pour faire le pont entre l'essence de la Neshama et le dévoilement dédié à chacun des endroits, on va passer par le centre nerveux. C'est quoi le centre nerveux? C'est le mochin, c'est le cerveau. Le cerveau, celui qui est capable de maîtriser son cerveau, il est capable de faire ce qu'il veut à son corps. C'est quoi le cerveau d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le cerveau de la Shrina? Et ça, on développera Bezrat Hashem dans le chapitre 52, Pessah Kasher Vesameach. Voilà.
C'est ça, c'est-à-dire que quand il y a eu le dévoilement au niveau du cerveau, il a modifié les attributions dans les